entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse et vogue, vogue la galère, le cap sur la bohème et vogue, vogue nos chimères, le cap sur leur fredaine. Y'a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Y'a des cigales dans la fourmilière, mais c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de scandale?
C'est les enfants de la balle et ça jongle et ça crache le feu
et ça fait boum boum dans les oreilles.
À votre bon cœur, mesdames et messieurs,
à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue
une parade de fortune?
C'est les oiseaux sans plumes
et qui s'acharnent tant bien que mal à vivre comme ils respirent.
Quitte à crever la dalle, ils ont tant de choses à dire.
Y a des cigales dans la fourmilière
et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère.
Entends-tu passer dans ta rue une parade de ville en ville?
C'est le théâtre du fil
et qui joue dans toutes les langues pour mieux parler de l'amour pendant que le monde se demande
si demain il fera jour. Y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère.
Amante selon la mer, avec dans les amplis le gong de la colère. Saint-Malo, Saint-Mali, à battre les cloisons, à monte ma jolie, la...
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez prendre la carte d'auditeur pour 20 euros, 145 rue Amenot, dans le 11e arrondissement à Paris, ou sur Internet, aussi sur le site de la radio. Prendre un prélèvement mensuel de 8 euros qui nous aide à faire des émissions libres. Nous recevons ce mois-ci Tristan Félix et Lise Kervenik. Bonjour Tristan.
Bonjour Thierry.
Bonjour Lise.
Bonjour Thierry.
Nous recevons aujourd'hui soit Tristan, pardon, pour vos livres en roue libre sortis chez Tarmac Éditions, pour Grimoire des Foudres, sorti aux éditions PHB, et pour Testicule sans E à la fin, sorti chez Tinbad Éditions. Et je vous reçois Lise pour votre roman Les Marchands de Paris, sorti aux éditions Flammarion. Si vous voulez bien, on a convenu ça comme ça. Je propose que nous commencions les entretiens avec Tristan Félix. La première question, pourquoi ce pseudonyme et pourquoi Félix sans accent aigu ?
Alors c'est un peu cuistre, ma réponse va être un peu cuistre. Félix sans accent, c'est l'adjectif latin. C'était justement pour que ce soit pas spécialement ni masculin ni féminin. Mais il y a longtemps, quand j'étais enseignante à Argenteuil, il y a un nouveau logiciel qui est arrivé pour les conseils de classe qui s'intitulait, je ne sais pas s'il existe encore, Profilio. Et quand je suis rentrée en conseil de classe, j'ai vu que toutes les têtes étaient tournées vers des camemberts projetés sur les murs et que personne ne regardait ni les jeunes, ni les professeurs, ni toute l'équipe pédagogique. Et outrée à la fois dans un état d'hébétude proche de la farce, je suis sortie de ce conseil de classe et j'ai écrit un texte ironique signé Tristan Félix, à la fois donc triste et heureuse, qui dénonçait un peu cette façon de procéder avec l'humain. Et en substance, ce que j'écrivais dans ce texte, c'était que je ne supportais pas qu'on regarde les êtres humains de profil, et je préférais les regarder de face. Et je crois que de nos jours, ça n'a cessé de s'intensifier, cette façon de dévaloriser l'être humain, de l'humilier, de le rendre inexistant. Voilà.
Vous êtes né au Sénégal. Pourquoi au Sénégal ? C'était vos parents qui étaient là-bas ?
Oui, mon père travaillait là-bas. Ouais.
D'accord. Étrangement, vous m'aviez dit lors de nos entretiens passés à ce micro, vous n'aviez aucun souvenir de ces 6 premières années. Lors d'un verre pour la préparation de cette émission, vous m'avez plus précisément dit que 3 choses en fait vous revenaient de ces premières années. Pouvez-vous nous les livrer comme une chose précieuse ?
Oui. Alors, je ne sais pas si je vais me rappeler les 3. En tout cas, il y en a une qui fait d'ailleurs l'objet d'un texte avec mon compatriote poète Philippe Blondeau, dans un recueil qui s'appelle Oniroscope, où on s'est échangé nos rêves. Et le premier souvenir que j'ai, en fait, c'est le souvenir d'un rêve. Alors, entre le souvenir et le rêve, je ne sais pas quel est le degré de réalité qu'il faut retenir. En tout cas, dans une grande baignoire émaillée de blanc, avec des murs tout blancs, il y avait mon père qui était là, à genoux, un peu comme un martyr, et qui était tailladé en sang. Et de l'oreille droite, j'entendais un petit oiseau qui s'appelait Framboise, qui était tout rouge dans la cage, dans sa cage, et au 9e étage où nous étions de l'immeuble des Allumettes à Dakar. Donc c'était une image forte qui m'est restée un peu comme
un
conte.
Une image vraie ou...
Ben, c'est l'image d'un rêve.
Ah, c'est un rêve,
oui,
ah, ouais, c'est ça.
Mais c'est le souvenir d'un rêve de cette époque-là.
Oui, mais rassurez-moi quand même.
Oui, oui, oui. Non. Mon père n'est plus de ce monde, mais jamais il n'a été dans cet état-là. Et un autre souvenir, je ne le confierai pas parce que c'est quand même plus intime, familialement parlant. L'autre souvenir, c'est un petit peu comme des contes, en fait. Peut-être que nous imaginons nos souvenirs. Enfin, c'est sans doute même dans la plupart des
en
cas.
En tout cas, on les déforme.
On les déforme,
c'est sûr.
Oui,
on les déforme,
c'est sûr. Chérie, ouais. Et là, j'étais dans les bras d'un grand monsieur noir et il avait des trous de boucles d'oreilles, mais non occupées dans l'oreille. Et je me disais qu'à travers son trou, et ça, c'est pas un rêve, je regardais le port de Dakar. Donc, je sais pas, je devais déjà être un peu pété du casque. Mais voilà, ce sont des petits souvenirs d'enfants.
Et vous savez pas pourquoi tout le reste est parti, alors qu'il doit y avoir des odeurs, doit y avoir des paroles, doit y avoir des musiques.
Je crois que je vous l'ai dit, naguère, ce qui a dû me rentrer dans la barbaque, c'est le rythme. Ma mère dansait beaucoup avec les amies africaines, beaucoup, ou du moins elle dansait avec elles. Et moi je sais que j'ai dansé beaucoup de danse africaine, je vais me donner des cours comme ça, ici ou là. Et j'ai cette frénésie des rythmes telluriques. Et c'était quoi votre question ? Ah oui, pourquoi il m'en est rien resté ? Ben sans doute parce que, enfin c'est pas sans doute, c'est certainement, il s'est passé des choses assez effroyables et que sans doute ma cervelle n'a pas dû avoir envie de retenir.
Choc traumatique ?
Oui, des choses comme ça. Mmh. Voilà.
Quelles furent vos lectures de votre toute enfance, hein, Tristan Félix ? À l'époque des BD, des premiers livres.
Moi, c'est la Bibliothèque Rose.
Ben voilà, comme tout le monde. C'est ce que tout le monde répond, mais c'est ça, quoi. C'est les...
Ben oui.
Ben ouais.
Et puis, je choisissais surtout les histoires, si possible, où il y avait des animaux.
C'est-à-dire ?
Bon, je ne me souviens plus, moi, les titres, hein, parce que vous me demandez, là. Mais dès qu'il y avait un animal, j'allais dans le titre ou dans les images, ou si ma grand-mère me disait, qui était institutrice, là, ça parle d'animaux, c'est le livre que je pouvais choisir. Mais sinon, je n'ai pas d'autres souvenirs, moi. Et les premiers livres, vraiment, que je me répète, hein, je suis désolée pour ceux qui
m'entendent. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas.
Hein. Oui. Moi, un trio un peu fracassant d'auteurs qui m'ont été offerts par ma mère, j'avais 15 ans.
C'est la question d'après, lecture d'adolescence.
Ouais, c'est les contes de Lautréamont. C'est tout d'Arthur Rimbaud et puis Charles Baudelaire. Et je suis restée avec ces trois amis. Amis au sens même médiéval du terme.
C'est quoi le sens médiéval ?
Ben, c'est ami et en même temps amoureux. Et moi, je rajoute aussi l'idée d'aimantation. On est aimanté par des gens qui nous ont bouleversés.
Et après, dans votre jeune adulte, quand vous avez découvert des mondes en lisant ?
Oui, j'ai découvert et qui m'ont plu. Bon, il y a eu Racine. Il y a eu Huysmans, il y a eu Hofmannsthal, il y a eu Barbey d'Aurevilly. Des gens, alors bien sûr, ça y est, j'ai oublié son nom. C'est un trou, c'est horrible.
Bon, on a tous, hein, malheureusement, en vieillissant. Peut-être pas en vieillissant d'ailleurs. Mais
bon, enfin bref, Victor Hugo, bon, enfin voilà, il n'y a rien de très, très original. Quoi. Beckett. Beckett m'a très, très étonnée. Et. D'ailleurs, j'en parle dans un des textes de En roue libre, à propos de la lettre à Buster Keaton, quand Beckett, que j'appelle Sam Beck, filme dans un film qui s'appelle Film, d'ailleurs, Buster Keaton vieux, et dont on ne voit quasiment jamais le visage tout au long de ce moyen métrage, ou court métrage d'ailleurs.
Écriviez-vous jeune ? Comment avez-vous commencé à écrire ?
Mon père n'étant pas là, quand on est revenu en France, j'écrivais des lettres avec toujours des jeux, des devinettes, des énigmes. Je faisais des petits dessins comme les enfants font en général. Après, à 13 ans, 12-13 ans, ouais, j'étais au petit con, c'est-à-dire le petit lycée Condorcet, en fait, qui est un collège. Et je m'ennuyais ferme en mathématiques, mais ça, je vous l'ai déjà raconté.
Mais ça n'a aucune importance, c'est des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Hein.
Et puis on redit, j'avais de la même façon ce qu'on a déjà dit. Bon. Je m'ennuyais en mathématiques et je faisais circuler sur les genoux de mes voisins et voisines des petites histoires un peu folles. Et jusqu'à ce que je me fasse vider par le professeur. Et comme il était de Saint-Louis du Sénégal, comme moi, on était restés copains. Et j'étais virée de la classe et j'entrebâillais la porte et je passais mes mains comme ça avec des gants pendant le cours de maths. Il ne m'en a jamais voulu, mais il me mettait quand même dehors, mais bon.
Il vous notait ?
Oh, j'avais de très très sales notes quand même. Mais donc c'était l'occasion d'écrire, tandis que c'est interdit. Et d'écrire tandis qu'on s'ennuie au sens où on ne comprend pas, C'est un peu la panique quand on comprend pas. J'ai toujours ça, moi, d'ailleurs, adulte, j'ai gardé ça. Quand je me sens perdue, que je comprends pas, que je me sens exclue, la panique, c'est... m'oriente vers le merveilleux, vers le rêve ou l'imaginaire.
Aviez-vous accès à tous les livres de la bibliothèque familiale ou municipale ? Aviez-vous votre propre bibliothèque ?
Non, il y avait des livres à la maison, mais pas énormément. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère qui était instite, on allait à la bibliothèque. Il n'y avait pas beaucoup de livres chez elle. On allait à la bibliothèque municipale, donc j'ai jamais été privée de livres.
Tout ce que vous vouliez ?
Oui, on en offrait. Donc je lisais ce qu'on m'offrait. Non, j'ai pas eu de rétention d'aucune part.
Et vous alliez en librairie ?
Alors à quel âge, quand
13-15 ans.
13-15 ans, en librairie ? Non, j'ai pas souvenir d'aller en librairie à cette époque-là. Ma mère devait m'acheter les livres, sans doute, dont j'avais besoin pour mes études. Et plus tard, après, j'aimais beaucoup aller sur les quais pour trouver des bouquins chez les bouquinistes. Et en fait, je me suis pas mal cultivée par surprise. Quand on m'offre des livres, quand je les découvre par hasard, je me suis pas dit, à cette époque-là, je vais aller chercher tel auteur. C'est venu, au fur et à mesure, dans un grand désordre.
Quel bac avez-vous passé ? Études avez-vous faites ? Quel fut votre sujet de mémoire ?
J'ai fait des études de lettres, parce que les mathématiques... Vous pouvez l'imaginer, c'était pas trop mon fort. Et j'avais commencé quand même...
Pourtant, vous faites de la numérologie, moi, ça me fait rire doucement, mais enfin bon...
C'est pas de la numérologie.
On a déjà parlé,
De la numérologie.
On va pas revenir là-dessus.
Non. C'est des chiffres magiques qui nous aident à tenir au quotidien. Je faisais ça quand j'ai eu des problèmes de lecture. On va pas s'étaler là, mais pendant 6 ans, j'ai cessé de lire en pleine étude de lettres. Et il a fallu que je recompose arithmétiquement les phrases que j'étais en train de lire sous forme de 3, multiples de 3, 6, 9, je disais à l'endroit, à l'envers, enfin, c'était un grand délire follement arithmétique dans ma tête. Et c'est pas de la numérologie, c'est de l'anxiété.
Les chiffres, quoi, les chiffres.
Non, c'est de l'anxiété pathologique, vraiment à haut niveau. Et donc, vous me posiez la question, c'était... Ah, merci, Lily.
Voilà, les études.
J'ai fait des études de lettres, donc. Et après, j'ai fait une hypocagne. Comme j'avais eu mes problèmes de lecture, je ne lisais plus rien. Je passais des nuits blanches, une à deux nuits par semaine, avec des chocobéennes, des chips, du chocolat, des cacahuètes, pour essayer de lire ce à quoi je ne comprenais plus guère. C'est-à-dire que le langage avait perdu sa substance. Il n'en restait que... les graphes. Donc ça a été très 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 dur, les études de lettres, mais je les ai faites. Donc je suis pas allée en Cannes, je suis allée après à Nanterre. J'ai fait une double licence de linguistique et de littérature. Et j'ai fait une maîtrise sur Jean Rey, que j'avais découvert sur les quais. Malpertuis, la cité de l'indicible peur. Et puis, quoi d'autre après ? Mais voilà.
Le sujet de la... Sur Jean Rey. L'énoncé du sujet.
Dire. Oh, je ne sais plus.
D'accord. Vous qualifiez de poète. Pourquoi est-ce une nécessité ? Est-ce utile pour vous, poète polymorphe et polyphrène ?
Oui, une nécessité, oui. C'est vital. Je dis souvent que je suis en permanence branchée sur un flux d'images. Qui me permet d'avoir un pied dans le réel et un autre dans l'imaginaire, dans le merveilleux. Parce que le réel est de nos jours, je pense que pour tout le monde, c'est de pire en pire et de plus en plus asphyxiant. Et le rêve est une espèce de matrice respiratoire qui nous aide à vivre au quotidien. Alors évidemment, la poésie, en gros, tout le monde s'en fout. Maintenant, il y a une grande mode de la poé-réalité où on parle dans sa poésie, on évoque les téléphones portables, les kebabs, les frites. Cette poé-réalité est invasive et je la comprends pas parce que c'est une poésie qui se ancre encore plus dans le réel quotidien le plus banal. Enfin, voilà. Donc ma poésie, elle est peut-être pas forcément très simple, je le reconnais. Mais ce que j'ai lu moi-même quand j'étais jeune n'était pas simple. Et je relisais, non pas forcément parce que j'avais des problèmes de lecture, mais parce que j'avais envie de m'imprégner de cette chose un peu difficile, donc secrète, donc mystérieuse, donc forcément qui vous faisait accéder à d'autres mondes. Des mondes souterrains, des mondes de l'au-delà, au-delà de ça, je ne sais pas.
Vous enseignez les lettres à Paris vers la Goutte d'Or et vivez à Saint-Denis, deux quartiers pas trop bourgeois. Est-ce un hasard ?
J'avais un studio qui était trop petit, enfin un petit appartement qui était trop petit. C'était un studio, rue Philippe de Girard, et il a fallu que je déménage. Et les prix étant ce qu'ils sont, je me suis retrouvée à Saint-Denis, à 4,5 km en vélo. Et c'est pour ça que je me retrouve là. Et finalement, ça me plaît bien, parce que Saint-Denis, c'est un village qui est extrêmement tournoyant, enfin dont la population est extrêmement tournoyante. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les, comment on pourrait dire, de toutes les énergies. Certaines énergies violentes, d'autres extrêmement bienveillantes. Je m'y plais plutôt bien pour l'instant.
Et la Goutte d'Or, où vous enseignez...
Ça, c'est le pied de la Goutte d'Or. Hein, c'est,
oui, mais bon,
c'est en bas, c'est à Marquet des Poissonniers.
Vous auriez pu changer avec le temps.
Eh ben non, parce que mon meilleur ami, Nicolas Bonamy, tata, j'en ai parlé, habite juste en face du collège. Nicami, de son nom de caméraman, cadreur, puisqu'avec lui, on fait des courts-métrages un peu folle dingue depuis une bonne douzaine d'années. Et donc, je préférais rester où j'étais. Comme ça, on pouvait aller prendre une bière, un café, faire un petit montage. Voilà.
Alors, tout simplement. Vous avez écrit une trentaine de livres en vers ou en prose. Pendant 12 ans, vous avez co-dirigé La Passe avec Philippe Blondeau, une revue des langues poétiques. Vous êtes, en plus de l'écriture, dessinatrice, photographe, marionnettiste, conteuse en langue imaginaire, performeuse, chanteuse bruiteuse et clown trash.
Je fais des confitures aussi.
Comment lit-on tout cela ? L'écriture est essentielle ou tout se mélange ?
Je pense que ça a commencé par l'écriture. Et après, quand on écrit, on peut écrire des textes qui vont influencer une marionnette. Une marionnette va influencer un dessin. Un dessin va influencer une façon de chanter. Enfin, ça tournoie, c'est le même... Je pense que l'écriture est à la base de tout ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une écriture qui a originellement, enfin en tout cas au moment où je faisais des études de lettres, où je m'orientais vers un avenir, la langue s'étant privée de sa substance, il en est resté une forme très chiante parce que je comprenais rien, mais en même temps qui est devenue esthétique après. La langue tracée devenait un dessin, etc. Donc finalement...
Alors, je propose qu'on passe en roue libre de Tristan Félix, sorti aux éditions Tarmac. J'avais d'autres questions, mais on ne peut pas tout dire. Pourquoi ce titre déjà en roue libre ?
Alors, c'est le titre du dessin qui était en première de couverture, un dessin que j'ai fait à la plume, et qui peint un dessin très réjouissant. On y voit une espèce de terreur, et c'est l'idée que nous allons en roue libre dans une grande descente catastrophique. Voilà. Et j'ai écrit une douzaine de lettres à différents destinataires. J'ai écrit aux épistoliers, ceux qui écrivent des lettres, donc à monsieur l'inspecteur des finances, madame la directrice de l'EHPAD des Diamantines, à monsieur Ubu, alias Macron, au métronaute, à Buster Keaton, à mon clown, à ma mère, à ma mort, et aux forces de l'ordre. Alors là, je vais vous lire un extrait, le début de la lettre à Monsieur Ubu. Monsieur Ubu, nous ne sommes pas certains que vous sachiez qui vous êtes ni qui nous sommes. Nous nous permettons de vous présenter, bien que nous préférerions vous absenter. Mais votre réalité est d'une telle épaisseur de marne que nos souliers à chaque pas croient soulever un cheval mort. Nous souhaiterions, dans cette incommensurable distance qui nous sépare, que vous puissiez un jour, à l'occasion d'un raout, Goûter à l'eau salée qui s'engouffre depuis des heures dans la gorge d'un migrant jeté de son rafio en direction de votre royaume. C'est un pêcheur tout mince, le thorax creusé, une étoile filante en travers du front, comme sur celui des chevaux dans les contes. Il a quitté son littoral parce que les contrats que vous avez passés avec des rois qui vous aident à régner ont vidé son océan de poissons. Alors, il est venu voir si l'on pouvait lui céder 2 ou 3 sardines à l'huile. Seulement, il va mourir. Il lui manque déjà une jambe dont s'est emparée une orque pour nourrir son petit. Il suffoque. Vous et votre caste êtes pétris de la mort des autres, et votre dorure a les reflets verts et ocres des corps abandonnés dans le désert, au fond des campagnes et dans les abattoirs. Il suffoque. Quand vous aurez passé, les nécrophages dîneront des cadavres dont vous aurez festoyé. Il suffoque. Vos restes et les reliefs de votre valetaille avide fumeront un jour la terre que vous aurez infectée, où vos cendres tournoieront dans l'océan parmi les ombres des noyés. Il suffoque. Redevable en espèces trébuchantes auprès de qui vous a intronisé, vous faites payer votre redevance à qui crut naître pour s'éblouir d'un poudroiement de visions tendres et sauvages. Il suffoque, il n'en a plus pour longtemps. La guerre vous justifie toujours. T'accouches ou je tire un coup ? Claironnez-vous pour réarmer le ventre des jeunes femelles. Il suffoque. Hypoxémie, hypoxie cérébrale. Ce sont des mots qui vous donnent envie de danser ? Il est mort. Si mort qu'on ne voit même plus sa traînée rouge sous l'écume. Ah, aucun retour sur investissement.
Dans tous vos livres, vous employez des mots rares, que je ne connais pas personnellement en tout cas. D'où viennent ces mots de lecture ? Vous les cherchez ? Expliquez-nous si vous le voulez. Vous me faites penser à Hubert Haddad, que j'ai reçu à ce micro de nombreuses fois, qui, comme vous, a un vocabulaire très riche.
Alors, Hubert Haddad a un vocabulaire beaucoup plus riche que le mien. Mais votre question m'interpelle parce que j'ai toujours eu à cœur de chercher systématiquement, mais avec même maniaquerie, tous les mots que je ne comprenais pas en remplissant les marges de mes livres, des définitions que je trouvais dans le dictionnaire. Et si, je ne pouvais pas continuer de lire si un mot m'échappait. C'était aussi, et ça participait de la lenteur de ma lecture. Et chaque mot difficile me renvoie à cette fameuse langue dont la substance m'échappait, dont je viens de vous parler tout à l'heure, que je viens d'évoquer il y a quelques minutes. Et donc le mot rare, c'est un peu un monstre. C'est quelque chose qu'il faut investir pour pouvoir aller, toujours pareil, retrouver des mondes plus secrets.
Comment avez-vous fait le choix des destinataires de ces 12 lettres ? Avez-vous écrit les lettres uniquement pour ce livre, oui, par exemple, ou...
Oui, sauf une, celle de Buster Keaton, celle à Buster Keaton, que j'avais écrite il y a quelques années. C'est Jean-Claude Goiry qui est venu me solliciter, comme il a sollicité d'autres de ses auteurs, donc des éditions Tarmac, pour sa nouvelle collection Aliénation et Liberté. Et j'ai écrit ce texte-là pendant les vacances de Noël. Voilà.
Donc tout récent.
Voilà. Et il fallait que ça tienne dans un certain nombre de pages, donc pas trop de destinataires non plus. Et le choix des destinataires vient de ma colère sociale et aussi de mon amour pour certaines personnes, dont Buster Keaton, par exemple.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement à Paris. Émission Des mots, une voix, librairie Publico. Et elle a lieu tous les 3e dimanche du mois. Musique, Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter au 145 rue Amelot à la librairie Publico, le siège de la radio dans le 11e arrondissement à Paris, émission Des mots, une voix. Nous recevons ce mois-ci Tristan Félix pour En roue libre dont nous avons parlé, pour Grimoire des Foudres PHB édition et pour Testicule Tidmad édition. Et nous recevons aussi Lise Kervenik tout à l'heure en deuxième partie d'émission pour son roman Les Marchands de Paris sorti aux éditions Flammarion. Nous avons eu quelques questions d'ordre général avec vous, Tristan Félix. Nous avons parlé un peu de roue libre. On va passer à roue libre. Vous voulez continuer un peu sur roue libre?
Non.
Parce que j'ai d'autres questions, mais bon, on n'aura le temps, vu qu'il nous reste 13 minutes en tout. Je propose que nous passions à Testicule et pourquoi ce Testicule sans E. Mais là, parlez-en.
Oui.
Parlez-en et après, je vous poserai des questions sur Grimoire des Foudres.
Oui. Ben, Testicule sans E, c'est une grosse farce. Parce que j'ai un peu une dent contre l'écriture inclusive, qui est proprement, à mon sens, excisive, puisqu'elle met un point et un E. Et comme je dis toujours en rigolant, je tiens mon clitoris. Donc l'écriture inclusive est une façon d'exclure les femmes de la langue, de telle sorte que la langue ne soit plus ni lisible avec les yeux, ni audible. On ne va pas dire point E, point EES.
Illisible en tout cas,
illisible,
ça c'est sûr.
On est d'accord.
Ça au moins c'est sûr.
Et donc je me suis amusée à retirer donc la partie soi-disant féminine d'un mot masculin, et pas n'importe lequel, testicule, donc testicule sans E. Et c'est Johan Armangil qui a fait quand même le dessin. Alors Johan Armangil avec lequel, il s'appelle Arsène Trifon dans son nom de musicien, avec lequel je chante dans la musique que vous venez d'entendre, qui est extraite de notre album « La mort se fait la belle ». Et je lui ai demandé, parce qu'il est plasticien également, il fait des livres, de faire la première de couverture, et c'est lui qui a transformé le L en un objet phallique, terminé en bas par une paire de bourses. Voilà.
Et vous pouvez nous parler du livre, comment il est construit, tout ça?
Ben, ce livre, c'est une grande farce, il a été écrit un petit peu au fur et à mesure, il n'y a pas de plan, je n'ai jamais de plan prémédité. C'est une multi-parodie contre le langage entrepreneurial. D'ailleurs, tout ce qui est en italique, c'est pas de moi. C'est totalement extrait d'un ouvrage en langue entrepreneuriale que j'ai découvert avec effroi. C'est une parodie également du langage pornographique. Alors, une parodie en mauvaise part, parce que j'ai beaucoup de mal avec les scènes de cul fastoche qu'on trouve dans 90% de la littérature. Une parodie aussi de la fiction gore, une parodie de l'auto-fiction que j'appelle l'auto-friction. Alors je ne vais pas dire à la qui parce que je n'ai pas envie de nommer une autrice qui ne me plaît pas. Il y a une espèce de propension actuelle à une littérature un peu voyeuriste et... Oui, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Enfin, en tout cas, je parodie cette façon d'autofiction actuelle. Je parodie également le langage chevaleresque, mais là, c'est plutôt en bonne part, parce que je suis une grande fan de Chrétien de Troyes, ce très très grand romancier et poète du XIIe siècle. Et je mélange toutes ces farces dans des langages très mêlés, à la fois un langage très, très pointu, très... très lettré, à la fois un langage de banlieue, langage entrepreneurial, langage aussi de ces auteurs qui se caressent le nombril et qui ont de ces pauses dans certaines émissions littéraires à la radio. Peut-être que je suis en train de m'auto-parodier. Ah ça, je l'ai raté, celui-là j'aurais dû le faire, mince, dans... faut que j'en refasse un autre, voilà. Voilà, et puis c'est un petit, c'est mon premier récit, parce qu'il y a un début, un milieu, une fin quand même, il y a une histoire, et qui part dans le délire farcesque très très régulièrement. Voilà, c'est un immense éclat de rire.
D'accord, je vous remercie. Ben, je propose que nous passions maintenant à Grimoire de Foudre. Des Foudres, sorti aux éditions PHB. C'est un triptyque consacré à trois coups de foudre, m'avez-vous dit. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, vous êtes tombée trois fois amoureuse?
Non, je vous avais précisé, c'est des coups de foudre.
Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Ni amoureux, ni passionnels. Mais on est parfois, alors je suis très sensible aussi, parfois j'ai un peu trop d'empathie ou de porosité. J'ai été très, très marquée par ce que trois personnes m'ont dit, m'ont révélé, m'ont confié ou m'ont fait entendre en termes de musique. Il y a une partie de ce triptyque qui est consacrée à Dominique Préché, organiste, essayiste, poète, compositeur, un très très grand monsieur qui est hélas mort il y a quelques années. Et un autre m'a parlé, cette façon de parler, de me confier des choses de l'enfance. C'est comme si parfois passer dans l'imaginaire devait être déclenché par des stimuli de l'extérieur. Enfin, oui, je dis deux fois la même chose, mais j'aime bien être poussée. J'aime bien que l'intériorité soit déclenchée par un événement extérieur. Une émotion, un bouleversement, une admiration. Et là, je peux... Alors, peut-être vous avez une question, sinon j'aurais pu en lire un extrait.
Bah, allez-y, ouais, lisez, parce que le temps nous est compté, ouais. Malheureusement. Je poserai quelques questions après.
Oui. Alors, la première partie, c'est une série de petits contes, 36 contes magiques, qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. La deuxième partie est consacrée donc à Dominique Préché, cet ami organiste, et la troisième à un ami qui m'avait confié ses cauchemars, et donc c'était des formules pour essayer de détruire ses cauchemars et les remplacer par des formules guérisseuses. Mais là, on va commencer peut-être par le premier conte de Grimoire des Foudres. Il était une fois un fort lointain héron qui ne dormait pas dans son lit de rivière. Il préférait une berge proche où se retournaient des poissons d'argent, si petit qu'il ne pouvait emplir son long bec. Un soir, l'impatience de son sommeil fut telle que son fourreau ailé glissa tout entier dans le grand lit. Des lames de lumière, découpées dans la lune, bordèrent le drap de sa couche. Il rêva de petits poissons qui faisaient une ronde autour de lui en ouvrant grand leur minuscule bouche noire. Et je vais peut-être en lire un autre. Après l'école, il emmena sa chèvre vers les herbes sèches criblées d'insectes. Là-bas, pour entendre tout dans son corps, il plaqua son front contre son crâne bosselé. Le broiement des chardons roula comme un tonnerre jusqu'à son ventre. Les cavités de la terre s'emplirent de chèvres. Agenouillé parmi les chardons, il ne sentit pas le poinçon des épines, ni le sang qui emplissait sa bouche. Devenu chardon, il entra dans la gueule de la chèvre. Il connut là le chant profond de la meule et le craquement de l'os.
Merci Tristan Félix. Quel lien faites-vous entre dessin et écriture?
Alors j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure. Quand la langue a perdu de sa substance, de son sens, elle est devenue pur graphisme. Donc déjà, mais à l'époque, je dessinais pas vraiment, même si je gribouillais dans les marges des copies que je rendais à mes professeurs. Il fallait que je sauve cette langue plus tard, je la sauverais, disons, de son unique forme graphique. Et je pense, peut-être que je l'invente, Mais du moins, je pense que cette langue vidée de sa substance est devenue dessin. Un dessin à la plume, d'ailleurs. À la plume sergent-major, ou à la plume même encore plus fine. Comme lorsque j'écrivais, d'ailleurs, en primaire.
La seconde partie de ce triptyque, c'est l'orgue de Dominique Préchez, 21 nocturnes.
Préchez, pardon. Pas le Z, oui.
Comment a été écrit ce texte? Dans quel contexte? Qui est Dominique Préchez?
Alors, Dominique Préchez, il est poète, essayiste, organiste, compositeur. C'est un ami qui est disparu le 24 avril 2021. Et il m'avait offert un double CD de ses compositions à l'orgue, qui sont aussi des reprises, des improvisations à partir d'auteurs qu'il pratique. Et en écoutant, ça s'appelle Libertate, c'est chez Polymny. Le double CD s'appelle Libertate, c'est assez extraordinaire. Il y a aussi des pièces, pas seulement à l'orgue, mais aussi au piano. Et j'ai été envahie. Encore un coup de foudre, cette fois-ci musicale. J'ai été envahie et j'ai écrit quasiment pendant une nuit, deux jours, cette suite poétique. Et là, c'est la musique qui déclenche l'écriture. Donc là, on a déjà un lien entre voilà, la poésie, la musique, le dessin.
Dominique Préchez, il écrivait aussi, je crois.
Oui.
Il a publié
notamment Leçon de ténèbres, oui. Que je suis en train de lire tardivement, parce que je lis extrêmement lentement.
La troisième partie s'intitule Cache-mort. Est-ce que cela a un rapport avec les cauchemars? Quel rapport entre les deux, si oui?
Oui. C'est une contrepétrie de cauchemars, cache-mort. Donc il faut cacher les morts qui se trouvent dans les cauchemars. Donc chaque poème de cette troisième partie du triptyque est composé et divisé en trois parties. Voilà, trois, on y revient. Hein. Oh là là, faut que je m'arrête.
Rien ne va plus.
La première partie, c'est le cauchemar, en gros. La deuxième partie, c'est la formule magique. Et la troisième partie, ouais, ça y est, il est guéri. La poésie, à ce moment-là, devient un peu... Alors, c'est un grand mot qui nous a été confisqué, mais je l'utilise quand même, chamanique. Du moins magique. C'est de la magie blanche. Ça fait pas de mal.
Et la dernière question, parce que le temps passe, on a déjà dépassé notre temps. Y a-t-il un rapport entre tragédie, désespoir du monde, angoisse et rire?
Ah oui. Je rigole, votre question terrifiante. Non, il faut rire. Rire, c'est décharger les abdos, c'est montrer les dents, montrer les dents de la tête de mort. C'est marrant, d'ailleurs, quand on rit, c'est la seule partie de l'intérieur qu'on voit de notre corps. Enfin, en termes de presque d'ossements, même si les dents ne sont pas des os. Mais c'est rigolo, non? Ça ne fait pas rire. Oui, il faut rire. Si on ne rit pas...
On voit la forme du crâne aussi.
Oui, c'est vrai. Oui.
On voit la forme des os, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais si on ne rit pas, on reste avec cette espèce de racrevé social
et politique. On rit du malheur du
monde,
vaut mieux en rire, comme
on
dit.
Bien sûr, oui. Mais le rire, ouais, en tant que décharge, mais aussi, je sais pas comment on dit, ouais, ça c'est très freudien, ça m'énerve de dire ça, mais je pense que le rire va au-delà de la décharge, même. C'est un moyen de communication. On rit pas tout seul. On rit devant quelqu'un d'autre. Je vous ai fait un tout petit peu rire. Et Lise Kervenik aussi un peu à ma gauche. Non, il faut partager le rire, il faut s'embrasser, il faut se rouler des pelles de rire, quoi.
Ce sera le mot de la fin pour votre entretien.
Merci Thierry de votre accueil,
Tristan
en tout cas.
Félix. Alors je vous rappelle que c'était la première partie de l'entretien. C'était avec Tristan Félix pour trois livres, En roue libre, Tarmac Édition, Grimoire des foudres, PHB Édition, et Testicule, Tinbad Édition. Nous allons mettre un morceau de musique. Vous écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par écrit au 145 rue Amelot, librairie Publico dans le 11e arrondissement à Paris, émission Démo Une Voix. Musique, Erwan.
Et le passage qu'on va écouter, c'est Alitus d'un groupe de Soufi Electro Merkan Dédé. Voilà.
Merci. Écoutez l'émission Démo, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous avons reçu en première partie d'émission Tristan Félix. Nous recevons en deuxième partie d'émission Lise Kervenik pour Les Marchands de Paris sortis aux éditions Flammarion. La première question, Lise, sera aussi le nom d'écriture que vous portez. Est-ce votre vrai nom entier?
Oui, c'est mon vrai nom. Je suis née Lise Kervenik.
D'accord. Vous êtes née en 91 à Saint-Malo, Lise Kervenik. Alors que votre famille habitait Reims, pourquoi ?
Parce que ma mère détestait cette ville et donc elle a décidé presque au dernier moment d'aller accoucher de moi à Saint-Malo. Voilà.
Mais c'est un nom, c'est pas un nom breton, Kervenik ?
C'est un nom très breton, ah, plutôt du Finistère en fait.
D'accord.
Plutôt du Nord Finistère en fait.
D'accord. Voilà. Que j'ai aussi des attaches bretonnes et ça me semblait un nom breton, quoi.
Mais oui, tout le monde a un peu, je crois, des attaches bretonnes.
Puis votre famille, alors que vous avez 5 ans, s'installe à Quimper, où vous allez habiter jusqu'à vos 18 ans. Quelles furent vos lectures d'enfance d'abord, toutes petites, livres ou bandes dessinées, si vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens parce que mon premier coup de cœur vraiment c'était Roald Dahl et j'ai lu tous les livres de Roald Dahl plusieurs fois. Je suis même en train de les relire. J'ai même appelé mon fils Charlie, comme Charlie à la chocolaterie. Voilà, et en fait ça a déclenché un amour des sagas, des grandes sagas, et de la littérature du fantastique, du merveilneux. Donc après, je n'ai lu que ça, vraiment.
Vous allez nous faire 10 livres sur les marchands ?
Non, je vais m'arrêter là. J'ai eu ma dose aussi des marchands. Mais c'est vrai que ça pourrait, ça s'y prêterait.
Je rigole, c'est une blague. Puis votre famille, alors que vous avez 5 ans, s'installe à Quimper. Deuxième temps de la question, quelles furent vos lectures d'adolescence ? Quand découvrons un livre, on découvre un monde entier, un pays, une manière de penser, un homme ou une femme, etc. L'adolescence,
là je suis sortie un peu du merveilleux, du fantastique, et j'ai découvert Romain Gary et Kessel, que j'ai lu aussi passionnément. Et puis Philippe Roth aussi, que j'ai beaucoup lu. Virginia Woolf, voilà, j'étais plus ancrée dans le réel à partir de mes 14-15 ans, quoi.
C'était quel livre de Romain Gary ?
J'adore Les Racines du Ciel, qui est un des, je crois, premiers livres vraiment à parler d'écologie, de protection des animaux, et voilà, qui est quand même une fresque magnifique sur la protection des éléphants, etc. Voilà. Et puis après.
Kessel, c'était quel livre ?
Kessel et Cavalier, qui m'avait bouleversé, quoi. Enfin, voilà. J'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé nul, d'ailleurs.
Bon, alors, en général, les adaptations cinématographiques, ça vaut pas grand chose. Hein.
Oui, voilà.
C'est très rare.
C'est très décevant. Puis là, c'est un grand livre, qui est sûrement très difficile à adapter, mais voilà, Les Cavaliers, oui.
Aviez-vous, enfant, adolescente, une bibliothèque personnelle ? Aviez-vous le droit de tout lire sans censure ?
J'avais une bibliothèque, dans ma chambre. En fait, j'allais beaucoup à la librairie avec ma mère. Et j'avais une libraire géniale qui me voyait revenir toutes les semaines puisque je dévorais les livres.
Et, vous n'alliez pas à la bibliothèque municipale ?
Un peu aussi, mais je dois dire que j'avais... mes parents adoraient cet objet-là, donc
C'est mieux d'avoir un livre à soi, mais bon, quand on n'a pas, assez de sous...
Je faisais un peu les deux, quoi.
C'est très bien, la bibliothèque municipale.
Voilà.
Moi, j'en ai usé deux, quoi, à mes goûts. Hein. Je n'ai pas tout lu, mais deux fois, il a fallu que je change de bibliothèque municipale, puis il n'y avait plus assez dans celle où j'allais au départ.
Oui, bah c'est vrai que moi j'avais quand même la chance d'avoir souvent mes livres, qui étaient très rares parce que je les relisais beaucoup d'ailleurs, mais et puis j'avais accès à la bibliothèque familiale, sauf les fluides glaciales, sauf les fluides glaciales de mon père que j'ai ouvert un jour et j'ai découvert un monde, voilà.
Ah oui, donc c'est bien ça, il y a bien sauf.
Voilà.
Bah c'est ça, c'était le but de ma question.
Bah oui, je les empruntais.
En général, souvent, c'est Sade qu'on cache.
Oui, bah là, on m'a laissé lire Sade. Hein.
Ah ouais, c'est bien ça.
Oui, je crois que... Non, il n'y avait pas beaucoup d'interdits dans la lecture, c'était plus l'image, la bande dessinée, tout ça, quoi.
Vous me dites que vous n'avez pas connu l'enseignant qui vous a dit « c'est ma meilleure copie ». Néanmoins, vous écrivez Elise Kervenik. À quel âge et quoi ?
En fait, j'ai toujours écrit des journaux intimes. Voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai écrit des poésies d'amoureuses transies.
À la manière d'un écrivain.
Oui, voilà, bah, Rimbaud à 16 ans, voilà, je voulais faire pareil. Et puis, mais ça a commencé vraiment jeune, je sais pas, à 6 ans, j'écrivais déjà des petits poèmes, tout ça, et des histoires. Mais jamais, oui, c'est vrai, parce que j'entends souvent les auteurs dire qu'ils ont eu ce professeur de littérature qui a tout changé, etc. J'entends souvent ça, et moi, en fait, voilà, ça ne m'est pas arrivé, quoi.
Personne. Ça n'empêche rien.
Et ça n'empêche pas, mais c'est vrai que je crois que ça donne peut-être un peu de confiance et d'élan que moi, on ne m'a pas donné. Donc, en fait, j'ai écrit beaucoup, longtemps, dans mon coin, sans le dire à personne et sans assumer ça, quoi.
Vous montriez à vos parents ?
Non, pas spécialement. Mais par contre, ils savaient que j'écrivais, oui. Et eux lisaient quand même mes copies et les trouvaient formidables. Comme tous les bons parents, quoi. Mais, et en fait, il y a un moment où j'ai commencé à assumer un peu. J'ai commencé à dire un jour, j'écrirai un livre, quoi.
C'était vers quel âge, ça ?
Vers la vingtaine. Et je pense que personne ne me prenait au sérieux. Parce que j'ai commencé à le dire comme ça, un peu. Comme si ça me, voilà, comme une lubie, alors qu'en fait c'était quelque chose de déjà, enfin de, depuis très longtemps, quoi. Quand j'étais petite, je jouais à l'écrivain, quoi, comme on joue, je sais pas, à la marchande.
Et qu'est-ce que vous faisiez pour jouer à l'écrivain? Vous étiez dans des salons.
Voilà, je m'imaginais dans des salons à présenter un livre. Je jouais aussi beaucoup à la bibliothécaire, je présentais des livres, donc ça devait être mais hyper. Enfin, c'est hyper bizarre, je pense, pour mes copines. Je leur parlais des livres, je les sortais sur mon lit, enfin voilà.
C'est la première fois qu'on me dit ça. On t'a déjà dit ça, Christophe.
Je trouve ça extraordinaire, puis je pense qu'il n'y a plus aucun enfant qui joue à ça.
Je vais à la bibliothèque, l'écrivain.
Ah, j'ai entendu ça.
Bah voilà, bah,
la cuisinière, pré-cuisinière, préparer les plats, le pompier, tout ça, c'est bah, courant. Oui. Mais la bibliothécaire ou l'écrivaine, oui. Jamais.
Ben voilà, je jouais à ça, ouais. J'avais peut-être peu d'amis, je sais pas.
Les cours de français ne vous satisfaisaient pas, me dites-vous. Pourquoi ? Qu'en attendiez-vous ? Vous conseillez-vous, entre guillemets, de bons livres néanmoins ?
Oui, j'ai eu quand même un prof en seconde qui, là, en fait, m'a fait découvrir Rimbaud et Victor Hugo. Qui était quand même assez habité par la littérature.
Bah, c'est lui le professeur, alors.
Voilà, c'est lui. Et, il s'appelait Erwan Gonidec. Et ça serait bien le genre à écouter Radio Libertaire. Donc, je le salue. Sinon, je trouve qu'on a beaucoup parlé de méthodologie au détriment de... du texte, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas la première et la terminale, quoi. Je trouve qu'en philosophie, on a beaucoup... Enfin, je me suis plus retrouvée en philosophie parce que là, on s'intéressait au texte, mais voilà, je trouvais que c'était beaucoup de questions de méthodologie parce qu'on préparait le bac de français, etc.
Tu en pensais, Tristan, qu'être prof?
mais je crois qu'il a tout à fait raison. Je me suis ennuyée dans de très nombreux cours parce qu'il était question uniquement de méthodologie, de technique. Et c'est très tardivement que j'ai, enfin, moi, personnellement, touché un petit peu la je sais pas comment on peut dire, la matière organique d'un texte, quoi. Enfin, son jus, son sang.
Et je trouve que c'est aussi... J'ai eu l'impression qu'on nous a jamais demandé notre avis, en fait, sur les textes. Enfin, voilà, avoir un regard critique sur un texte. Donc, on était obligés d'aimer, quoi. Enfin, voilà. Et c'est vraiment très, très tard, même, je dirais, presque peut-être il y a 2-3 ans, que j'ai compris qu'on pouvait avoir un regard critique sur un texte. Enfin, parce qu'on ne nous a pas enseigné ça, quoi. Voilà, je trouve que ça manque un peu, ça. Peut-être que d'ailleurs la critique n'existe plus tellement non plus dans la littérature de manière générale. Enfin voilà, donc.
Enfin, pas, vaut mieux pas parler de ça, hein, Tristan. Sur Internet, il y a encore des petits sites.
Oui, voilà.
C'est assez tout.
Exactement.
Même tous les grands médias qui avant en avaient, c'est fini, quoi. Les petits sites encore. Vous êtes d'accord, Tristan?
Oui.
Il y a encore ça qui reste.
Oui, c'est vrai. Pas beaucoup de trains, sinon.
Après, en tant que bon élève, entre guillemets, vous allez à Rennes faire du droit, vous vous ennuyez et allez en boîte de nuit. Vous me dites, vous êtes la meilleure en after. En amphi, c'est autre chose. Vous suivez en parallèle des cours d'histoire de l'art à Rennes 2, avec la vague idée de devenir commissaire-priseur. Puis vous faites un stage chez Vincent Lécuyer, marchand de tableaux du 19e et 20e. Et là, c'est le coup de foudre pour ce métier. Pourquoi ? Est-ce que c'est exact tout ça déjà ?
Oui, oui, très très exact. Ouais, je me suis ennuyée en droit parce que j'ai fait du droit comme des bons élèves, on sait pas trop, qui savent pas trop quoi faire. On fait médecine ou droit. En tout cas, il a jamais été question dans ma famille que je fasse lettres, alors que c'est ce que je voulais faire. Et donc, quand je découvre le métier de marchand d'art, je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'à la fois j'étais quand même un petit peu dans une période de que vais-je faire de ma vie et de désarroi et de rien ne m'intéresse. Et aussi, je découvre des gens en fait. Enfin, voilà, des gens un peu dingues qui vivent pas comme les autres, très libres. Voilà, et c'est cette liberté, je pense, qui m'a séduite, quoi. Et puis aussi, un peu envie de dire de faire une sorte de doigt d'honneur. comme on fait peut faire à 20 ans, quoi, à ma famille, de partir, partir, vivre à Paris. Donc pas toujours des bonnes raisons, quoi, mais en tout cas, c'est un métier qui m'a séduit tout de suite pour sa liberté, quoi.
Et la rencontre avec Vincent Lécuyer ?
J'ai fait un stage chez lui, on a des liens de famille, Et j'ai fait un stage chez lui parce que justement je savais pas quoi faire, j'avais un stage à faire de fin d'études, quoi. Et je m'intéressais déjà à la peinture depuis très longtemps. Et donc il m'a pris en stage et à la fin du stage il m'a proposé un boulot. Et voilà, et c'était quelqu'un de très pédagogue et qui a tout de suite voulu m'apprendre le métier et qui m'a amené partout et qui voulait... je sais pas, me transmettre son amour du métier, quoi. Et aussi de la peinture. Et donc, j'ai appris énormément de choses très vite, quoi. Enfin, c'était très intense.
Et les cours d'histoire de l'art ?
Bon, j'ai plus appris en chinant, je pense, voilà. Mmh. Et en cherchant et en passant du temps dans les bibliothèques et dans les documentations du Musée d'Orsay, du Musée du Louvre. Et puis dans les musées tout court, enfin, voilà. C'est là que j'ai appris, parce que... Oui, à la fac, mais peut-être parce que j'étais pas très assidue non plus, mais j'ai l'impression que c'est de toute façon des.
Enfin, il y avait beaucoup d'expos à Rennes pour la
fac. Non,
j'ai
fait non. En fait, c'est dans les musées parisiens que j'ai vraiment découvert. Et puis après, parce que j'ai voyagé un peu aussi, mes parents m'ont beaucoup amené dans les musées enfant, donc j'avais déjà ce goût pour la peinture. Mais et puis les livres, enfin voilà, les livres, on a.
Vous aviez des livres d'art, vous aviez cette chance.
J'avais des livres d'art,
mais je dis ça parce que ça coûte très cher, tout le monde le sait, quoi. Enfin, nous on le sait, quoi, hein, n'est-ce pas, ouais. Tristan. Ça coûte très cher les livres d'art.
Oui, ça coûte très cher, ça coûte trop cher d'ailleurs. Mais
mais bon, c'est les photos, la reproduction qui coûte cher.
Non, mais après les bibliothèques, là pour le coup vraiment les bibliothèques, j'y suis allée beaucoup pour des recherches et donc voilà. Et à Paris, c'est quand même, il y a des endroits géniaux, quoi. Pour ça, notamment l'INHA.
Qui est un très beau bâtiment en plus.
Sublime. Ouais. Moi, je passe du temps à écrire, notamment Les Marchands de Paris. J'écris
les couloirs, les salles, tout ça, c'est très beau.
C'est magnifique, ouais. Et voilà, je ne sais plus quelle était la question. Mais...
on s'en fout. Vous arrêtez instantanément vos études, Liscar Vénic, et Vincent Lécuyer vous apprend le métier en vous donnant par exemple son chéquier que vous utilisez entre parenthèses. Vous deviez avoir une relation de confiance avec Vincent Lécuyer, Liscar Vénic, pour qu'il vous confie jusqu'à son chéquier, quand même, c'est...
Ah oui, oui.
Il confie tout, quoi, tout ce qu'il a, quoi.
Ben oui, oui, non, mais il avait hyper confiance en moi, et puis après, il me disait, en fait, pour apprendre... le métier, il faut dépenser de l'argent et j'en avais pas, donc j'ai dépensé un peu le sien, mais jamais j'aurais fait un achat fou, inconsidéré.
Vous racontez ça dans votre roman à un moment.
Oui.
Je sais plus où c'est, il y a plusieurs histoires. C'est à Aumont, je crois.
Oui, ouais, ouais, au déballage du Mans, oui. Qui est un endroit de réunion de marchands, de professionnels, où il faut acheter très très vite et. voilà, on a 2 heures pour regarder de la marchandise et acheter quoi. Et donc c'est des moments où on peut vraiment perdre de l'argent, ça arrive à tout le monde à chaque déballage, parce que on n'a pas le temps vraiment de réfléchir quoi, voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il me prêtait son chéquier, c'est des moments hyper stressants, mais du coup j'ai vachement appris, parce que j'ai fait évidemment des erreurs, et pas des erreurs graves, mais quand même j'en ai fait quelques-unes, et aussi avec mon propre argent d'ailleurs, et voilà. Mais pour apprendre, il faut perdre de l'argent en fait, voilà, c'est pas juste dépenser, il faut aussi en perdre
et en gagner.
Et voilà, et en gagner, c'est quand même
plus
le
dur.
But hein, mais ça arrive pas.
Et ces erreurs, c'était quoi?
Par exemple, la première fois où vraiment, moi j'en fais une avec mon argent, alors, je sais plus quelles étaient les sommes, mais j'achète un dessin, en pensant que c'est un dessin, et c'était une gravure, voilà, rehaussée. Donc ça c'est quand même une vraie erreur, parce que c'est une erreur déjà un peu de débutant, mais parce que ça vaut évidemment pas du tout la même chose. Mais bon voilà, en fait c'est des objets qui sont faits pour être des pièges aussi. Et le marchand en face de moi était sûrement très très au courant que j'étais pas en train d'acheter un dessin quoi. Mais voilà, c'est le jeu. Hein. Je suis voilà, je l'ai gardé.
Vous installez au plus, puis passage vers d'eau près de Drouot. Ce fut dur. Vous êtes remise à écrire. Alors pourquoi Liskervenig?
Je pense que. En fait, pendant plusieurs années, c'est vrai, j'ai arrêté d'écrire complètement, à part peut-être mon journal un petit peu, mais parce que j'étais prise. C'est un métier tellement intense, humainement et puis aussi hyper stressant, quoi, de la peur de la banqueroute permanente. Que voilà, là, je sais pas, j'ai eu plus de temps, peut-être, quoi. J'ai eu plus de temps et je l'ai pris, en fait. J'ai pris le temps de me remettre à écrire. Et puis surtout, je pense que j'avais abandonné l'idée d'être marchande aussi à ce moment-là, quoi. Donc, l'écriture est revenue, comme ça.
Vous voulez nous lire un extrait? Ou deux extraits, comme vous voulez, vous avez du temps.
Je peux vous lire le début.
Si vous voulez, on va laisser. Okay.
Chapitre 1, un travail. La mère de Léonie Dumas est morte. Léonie ne dit pas « Aujourd'hui, maman est morte », mais « Marion est morte ». Certaines personnes rangent le décès de Marion dans la catégorie « mort bête ». Un décès qui aurait pu être évité. Rétrospectivement, on se dit « Quel dommage, elle avait encore de belles années devant elle, si elle n'avait pas eu cette drôle d'idée de traverser les rails de la porte de Clignancourt au moment précis où passait le tramway. » On se dit « À deux secondes près, c'est bête ». Si par exemple, en partant le matin, elle avait fait 2 tours de clé au lieu d'un, elle serait encore en vie. Elle n'avait fait qu'un tour. La violence du choc avait causé une mort instantanée. Une mort pas si bête finalement. La mère n'avait pas souffert. Un dysfonctionnement terrible et inexplicable. C'est la réponse qu'avait donnée le bureau des contentieux lié à la signalisation lumineuse tricolore. Doté d'un seul et unique employé à mi-temps, car les dysfonctionnements sont rares. Où Léonie s'était présentée après l'accident. Marion n'était même pas encore enterrée. Avant de mettre un proche au fond d'un trou, il faut bien s'assurer de sa mort. Si Léonie avait vu Marion à la morgue, elle n'en était pas encore tout à fait sûre. Au nom du ministère des Transports et de la Sécurité routière, mademoiselle, toutes mes condoléances. Monsieur Carré, lui dit-il en tendant la main, mais appelez-moi Fabrice. Vous êtes venu chercher une explication, je dois d'abord vous dire qu'il n'y a pas de précédent dans le domaine de l'accidentologie. On est dans le flou. Le BCLSLT collabore avec un bureau d'études qui planche déjà sur l'affaire. J'y suis passée ce matin et entre nous, je ne les sens pas confiants. Pour tout vous dire, mademoiselle, tout l'objet de l'enquête du bureau d'études en ce moment est le FF, le feu fautif. On devrait pouvoir établir une responsabilité dans les mois à venir. Fabrice se tortillait sur sa chaise. Il était content d'avoir un interlocuteur, encore mieux une interlocutrice, lui qui passait ses longues journées à rédiger des rapports sur le bon fonctionnement et l'efficacité des logiciels de régulation de circulation. Le reste du temps, il était veilleur de nuit dans un Ibis Budget. Léonie était donc son premier rapport humain depuis le réparateur de photocopieuse il y a 3 semaines. Fabrice avait envie de lui faire plaisir, il aurait bien voulu lui expliquer le fonctionnement des SLT, lui démontrer que la cause de ce genre d'incident ne pouvait être qu'humaine, et pourtant, Léonie n'insista pas. Sa mère était morte écrasée par un tram qui n'y était pour rien. Marion non plus n'y était pour rien. Pour une fois dans sa vie, sa mère n'avait juste pas eu de bol. Voilà pour la mort. Désormais, Léonie avait un travail, celui de sa mère.
Vous avez un autre passage à nous lire ou pas? Vous aviez choisi un, je crois, tout à l'heure. Vous le retrouvez? Je vais vous poser une question en attendant, mais okay. Cherchez-le pendant ce temps-là si vous arrivez à faire deux choses en même temps. Avez-vous envoyé le manuscrit à d'autres maisons d'édition que Flammarion?
Non, j'ai envoyé à Flammarion.
Et pourquoi Flammarion précisément?
En fait, c'était... Donc avant de me mettre vraiment à écrire mon manuscrit, j'ai fait des ateliers d'écriture pour me donner, je sais pas, un peu confiance, un peu de que quelqu'un me dise que c'est bien. Et pour me lancer. Et donc, j'ai fait la connaissance d'Irina Teodorescu, qui a publié un roman chez Flammarion, mais voilà, d'autres ailleurs. Et c'est elle qui m'a proposé de mettre en contact avec Alix Penon, qui est donc la directrice éditoriale de Flammarion. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Flammarion. Voilà. Et en fait, ils m'ont recontacté si vite que je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à d'autres. Maison.
Bah, c'est l'idéal. Hein.
Bah, oui, et puis je suis très bien. Là-bas.
Quand on a beaucoup, beaucoup de mal à publier, quand ça se passe comme ça, vraiment, ça peut pas être mieux.
Voilà, j'ai eu cette chance de pas connaître de l'aide, sauf une, de, quand même, d'un agent littéraire qui m'avait envoyé une lettre de refus assez corsée, un peu dure. Voilà, c'est la seule lettre que j'ai reçue de refus.
D'accord. Bah, si vous avez retrouvé le passage?
Alors, j'ai un peu ouvert comme ça au pif, mais bon, c'est... j'aime bien le titre de ce chapitre. Alors, je lis le début, c'est un peu plus sur les marchands. Hubert Robert est un con. Le samedi est une journée particulière pour le marchand. C'est quitte ou double. La plupart du temps, il ne se passe strictement rien. Ouverture à 10h, fermeture à 19h, et entre les deux, le vide intersidéral. Un temps à faire sa comptabilité. Si vous passez devant une vitrine et voyez le marchand affairé derrière son écran d'ordinateur, deux possibilités. Soit il cherche activement son prochain coup en suivant les ventes aux enchères du monde entier, soit il regarde une série en fronçant les sourcils pour donner l'illusion du travail. La plupart du temps, il ne se passe rien, mais il doit être ouvert car le samedi est une journée qui peut vite basculer. C'est celle des particuliers. Vous, par exemple, cher lecteur, si vous avez la chance d'être en week-end dès le vendredi soir et faites partie de la masse d'acheteurs potentiels et inattendus du samedi, c'est le jour où le voisin du dessus se décidera peut-être à passer la porte pour s'offrir la belle sculpture devant laquelle il a rêvé tous les soirs en entrant chez lui. Le jour où cette femme, qui n'a jamais acheté un tableau de sa vie, aura un coup de cœur inexplicable pour une aquarelle Art Nouveau et elle dira Art Déco le soir même. Le jour où un conservateur sort de son musée pour sélectionner la prochaine acquisition.
Merci Lise Kervenik. Les marchands de Paris dont vous donnez le nom à votre roman, qui sont-ils?
Alors, ils sont... en fait, je donne... Pour moi, ce roman, c'est un portrait de tous ces gens. Même un bestiaire, on pourrait dire, parfois. L'idée, c'était quand même de montrer la diversité de ces gens et leur folie aussi, mais positive. Et donc, les marchands, ça peut être un antiquaire du 7e arrondissement, comme un brocanteur de la Porte de Vanves, voilà, le samedi matin, quoi. Et voilà, c'est des gens, tous ces gens-là font exactement le même métier, et pourtant, ils ont l'air d'être très, très différents, mais ils se côtoient, ils s'achètent, ils se vendent, ils ont juste pas les mêmes moyens, peut-être qu'ils ont pas eu les mêmes chances au départ, puisque c'est un métier d'héritier, on hérite souvent. Voilà, souvent le père, le grand-père faisait le métier, ou la mère, la grand-mère, souvent quand même le père, le grand-père. On hérite de galeries, on hérite de stand opus. Voilà. Et donc, c'est des gens qui font tous le même métier de manière très différente. Quoi.
Ce livre commence avec la mort de Marion. Vous l'avez lu. Cette mort, est-ce le nœud de ce roman? Je pense au vernissage de la fin du roman dont nous ne révélerons rien.
La mort de la mère... en fait, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était, parce que je commence comme ça, mais pour moi, c'était vraiment un moyen qu'elle l'hérite tout de suite d'une galerie, en fait. Voilà. Et je pensais vraiment que c'était ça, et finalement, c'est quand même devenu plus important. Et en fait, il se trouve que au moment où commence à écrire Les Marchands de Paris, Vincent L'Écuyer venait de mourir. Et finalement, c'est ça, voilà. Mais j'ai compris ça après.
Elle achète les toiles de Catherine, mais ne les emporte pas toutes. Cela se révélera une erreur. Pourquoi ne les a-t-elle pas emportées? Qui est Catherine? Quelle est l'intrigue de ce texte? L'intrigue entre guillemets.
Alors Catherine, donc c'est une artiste a priori très talentueuse, mais qui a été un petit peu empêchée de faire d'exposer par son mari, qui lui est un artiste sans talent et très frustré. Voilà.
C'est pas sympa, on peut dire carrément.
Et qui carrément un homme pervers, voilà, très mauvais, et le méchant de l'histoire, quoi. Comme il en existe dans le vrai monde, et pas seulement dans les romans. Et donc voilà, elle tombe sur ses tableaux, elle veut les exposer, et elle a cette idée absurde, mais parce qu'elle manque sûrement de confiance en elle, Léonie,
c'est la narratrice du roman, on n'a pas encore dit son nom, je crois.
Oui. Voilà, la narratrice, c'est la nouvelle marchande, voilà. Et donc, elle décide un peu par honte de ces gens-là qui sont pas très, sexy, quoi. Elle décide de faire comme si c'était une découverte d'artistes morts. Et en plus, par ailleurs, elle pense que un artiste mort vaut parfois plus qu'un artiste vivant, voilà. Enfin, c'est comme ça qu'elle elle justifie... au couple, le fait qu'elle va cacher leur identité, quoi. Et donc Catherine, pour qui j'avais peut-être peu de sympathie au début de l'écriture, parce que tellement j'en avais fait un portrait dur, etc., est devenue un personnage de plus en plus, je trouve, sympathique, et au qui j'ai trouvé, en fait, quelque chose de... d'une réalité de l'histoire de l'art, qui est les femmes... voilà, à qui on a empêché d'apprendre à peindre et d'exposer jusqu'à très très tard, quoi. Donc finalement, Catherine, elle est un peu le symbole de ça, quoi. Des femmes empêchées, des femmes empêchées.
Ce livre viscarvénique est plein d'humour de second degré. Est-ce le sujet ou est-ce votre nature, entre guillemets?
Ouais, je rejoins un peu Tristan Félix sur le rire. Voilà, c'est un mode de vie, quoi, enfin d'être, donc je suis comme ça, oui. Et après, dans l'écriture, je sais pas, c'est venu
parce qu'on rigole, là, quand même, enfin intérieurement, c'est pas éclat de rire à chaque page. Mais bon, on rigole bien quand même, il y a beaucoup d'humour, quoi.
Après, je pense que c'est aussi le sujet qui s'y prête bien, parce que les marchands sont quand même des gens, je trouve, globalement...
Ma question d'après, le milieu de l'art se prend très au sérieux. Est-ce que vous le pensez, ou est-ce que c'est un comique de situation?
Je le pense vraiment. Et en même temps, c'est des gens qui sont quand même capables, souvent, je trouve, d'avoir un peu d'autodérision. Mais oui, en fait, il suffit d'aller à l'Hôtel des Ventes de Drou à Paris, quoi. Enfin, c'est quand même un théâtre extraordinaire de gens qui parlent très fort et qui prennent tout ça très très au sérieux, et qui ont l'impression de changer tous les jours l'histoire de l'art, alors qu'en réalité, parfois c'est quand même un petit peu exagéré, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc oui, ces gens. Mais bon, c'est amusant.
On n'a plus le temps sur la dernière question, Lise. Il y a aussi la question du corps, de la sensualité et du désir dont la narratrice nous parle. Sans être glorieux comme après le premier vernissage, plus complexe avec Gabriel, pouvez-vous nous dire comment vous voulez que l'on ressente cette question du désir en vous lisant?
Alors, il y a les questions du corps et du désir qui sont peut-être pas tout à fait la même chose pour elle.
La question du corps, la sensualité, du désir, ses parents.
En tout cas, elle, c'est une fille qui est comme beaucoup de femmes, je pense, pas hyper bien dans sa peau, qui se regarde beaucoup, en fait, qui se regarde s'habiller, qui se sent mal à l'aise parce que son collant glisse. Voilà, ça paraît absurde, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se déplacent dans la rue avec un collant qui glisse, et c'est pas très agréable. Et puis la question du désir, c'est la question de sa liberté à aimer, à désirer, surtout. Enfin, voilà, et son érotisme, voilà, très libre. Après, la scène érotique, je voulais qu'on soit vraiment dans sa tête, parce que je trouve que finalement, enfin, moi, je m'y retrouve rarement, en fait, voilà, dans la tête d'une femme. Il est rare d'être dans la tête d'une femme en littérature qui fait l'amour. Voilà. Donc c'était très important pour moi qu'on soit vraiment dans sa tête plus que dans son corps, quoi.
D'accord. Ben, je vous remercie, Lise Kervenik. Je viens de vous recevoir pour Les Marchands de Paris, sorti chez Flammarion. Je viens de vous recevoir, Tristan Félix, en première partie d'émission pour En Roue Libre, sorti à Tarbac Édition, pour Grimoire des Foudres chez PHB Édition, et toujours de vous, Tristan Félix, pour Testicule chez Tinbad, sorti chez Tinbad. Nous allons mettre un morceau de musique, je crois que ça va être Iliona, et après, ce sera l'émission de Michel Polizzi. Musique, c'était l'émission Des mots, une voix de Thierry, le troisième dimanche du mois de 15h30 à 17h. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Au mois prochain. Le mois prochain, je ne sais pas encore s'il y aura une rediffusion ou s'il n'y aura pas d'émission. Vous le saurez en consultant le programme sur le site de la radio. À très bientôt, au revoir.
C'est le jour où l'été est arrivé, le jour où nous avons rangé nos ratés, comme l'on jette parfois du mobilier abîmé. On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit, restons amis comme si c'était beau. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est le jour où nous sommes sortis du rêve avant la fin, comme si l'on avait peur qu'il ne finisse pas bien. C'est le jour où, au fond de moi, j'ai espéré que notre adieu dise à demain. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit. Malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien. Pourtant, c'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de roses, qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour.
Et il est 17h sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30 pour un mélange musical, entre autres Mélange qui va commencer avec un groupe parisien. Il me semble bien qu'ils sont parisiens. Le label est parisien. Gigantonium. Le groupe s'appelle Nout. C'est un trio féminin avec la flûte, les effets spéciaux et la voix de Delphine Joussin. C'est pas une guitare, c'est une harpe électrique jouée par Raphaël Rinaudot et toutes les percussions Blanche Lafuente. Et donc par Nout, N-O-U-T, un morceau qui commence lentement et puis qui va démarrer, continuer très fort. Ça sent le brûler, disent-elles.